La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous, chers auditeurs, auditrices de Radio Présence et principalement sur cette émission La prédication protestante. Je suis le pasteur Laurent Lenoir de l'église Espoir et Vie de la ville de Groyer dans le Tarn. Je voudrais vous proposer aujourd'hui un sujet qui ne peut que intéresser qui que ce soit, c'est sur la liberté, être libre. Alors je vais rajouter bien entendu être libre en Jésus-Christ. Et pour appuyer ce sujet tellement vaste et tellement important, je m'appuierai sur Romains chapitre 8, l'épître de Paul aux Romains chapitre 8, verset 1er. Et il est écrit, l'apôtre Paul écrit ceci, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » On le relit ? Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 1er. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Finalement, pour comprendre ce premier verset de ce chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains, il faut le replacer dans son contexte. Et le contexte, c'est le chapitre 7. Et finalement, entre le chapitre 7 et le chapitre 8, on peut se rendre compte qu'il y a un contraste, comme s'il y avait deux mondes en parallèle. Quand on lit le chapitre 7, on se rend compte qu'il va préparer le lecteur, et en l'occurrence l'auditeur, comme c'est votre cas aujourd'hui, les préparer à ressentir le poids spirituel du chapitre 7, on va y venir, pour faire éclater la lumière du chapitre 8, et en l'occurrence, dès le démarrage de ce chapitre, on vient de le lire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation en Jésus-Christ. Alors justement, le chapitre 7 va écrire, et c'est ce que fait l'apôtre Paul par rapport à sa propre expérience finalement, va décrire l'homme livré à ses propres forces morales, intellectuelles, personnelles. Voyez-vous, la loi au départ, et l'apôtre Paul le souligne, la loi de Dieu, elle est bonne. Rien de ce que Dieu a mis en place n'est mauvais. Dieu a agi parfaitement dans l'explication auprès de l'homme, auprès de sa création, auprès de nous qui sommes ses créatures, comment il devait faire, agir pour plaire à Dieu. Donc, au départ, la loi de Dieu est bonne. Je dirais même que dans la Nouvelle Alliance, on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. Mais finalement, les commandements de Dieu continuent à être toujours d'actualité. Nous avons dans l'évangile de Matthieu, trois chapitres, Matthieu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, qui mettent en évidence les principes du royaume des cieux. Et tout ça est important. Et cette parole de Dieu, finalement, elle agit comme un miroir. Et c'est ce qui se passe au chapitre 7 dans le témoignage de l'apôtre Paul. Il montre la saleté qu'il y a dans la vie de l'homme, si vous me le permettez, pardonnez-moi le mot, ce qui est sale. C'est-à-dire, sous le vocable du mot péché dans la Bible, manquer le but, être dans la boue du péché. Vous voyez, il y a plein d'expressions qui montrent ce que la désobéissance du cœur de l'homme vis-à-vis de la sainteté de Dieu produit en lui. Et comme il y a quelque chose qui se révèle comme étant pas du tout propre, comme étant donc quelque chose de difficile à regarder, voire même quelque chose de nauséabond, mais l'homme n'a pas d'éponge, si je puis le dire ainsi, pour nettoyer ce qui est sale à cause du péché. Et voyez-vous, c'est le drame de ce que l'homme propose de par son idéologie religieuse, spirituelle, prenant plein de choses ici et là qui ne vont pas dans le sens, il faut le dire, de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est là le drame, parce que il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'autorité pour régler ce problème et donner à l'homme et la femme de se retrouver réellement, réellement libre. Et ce verset, verset 19 du chapitre 7 de l'épître de Paul aux Romains, est intéressant, puisque l'apôtre dit, Paul dit ceci, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et je répète, il dit, car je ne fais pas le bien que je veux, mais et je fais le mal que je ne veux pas. Il est impossible, voyez-vous, d'exprimer aussi nettement la tragique opposition qui dresse nos actes contre nos intentions. Et entre eux s'ouvre un contraste entre deux mondes, finalement, c'est ce que je disais tout au début. Entre eux s'ouvre, je dirais, même plus que ça, un abîme infranchissable. Voyez-vous, le moi, c'est-à-dire moi, chacun d'entre vous, individuellement, le moi sans Dieu, sans Christ, donc, amène la chair à vouloir dominer, mais elle est incapable de faire ce qui est bien jusqu'au bout. La chair peut le vouloir, notre être peut le vouloir, vous-même, vous pouvez le vouloir, vous en avez fait l'expérience tant de fois, mais votre chair, votre personne, sans Dieu, sans Christ, sans espérance, sans le Saint-Esprit, n'en a pas le pouvoir. Je prends un exemple biblique. Dans Matthieu 26, l'évangile de Matthieu, chapitre 26, c'est l'histoire de l'apôtre Pierre, la nuit où il a renié Jésus par trois fois, non pas une fois, mais trois fois. Finalement, l'apôtre Pierre, il voulait sincèrement faire le bien. Il aimait Jésus de tout son cœur. Et même à un moment donné, il a même dit au Seigneur, oh, je suis prêt à mourir pour toi, à mourir avec toi. Mais face à la pression qu'il va vivre cette nuit-là, là, dans cette cour, où il était aux côtés de tellement de gens qui d'ailleurs, donc, effectivement, l'ont reconnu comme étant quelqu'un qui avait été auprès de Jésus, et lui qui croyait au départ bien faire, il dit, mais j'y arriverai. Face à la pression, il a fléchi, son cœur a fléchi, il a chuté, il a fait exactement le mal qu'il ne voulait pas faire, se retrouvant dans la même détresse que le cri de l'apôtre Paul aux Romains chapitre 7 verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et le verset 20 rajoute, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et voyez-vous cette constatation de l'apôtre Paul, pardon, ne supprime pas notre responsabilité. Si nous-mêmes nous la faisons, et nous la faisons, ça ne supprime pas notre responsabilité. Elle prouve que je ne suis plus le maître chez moi. Et nous sommes coupables d'avoir laissé un autre y pénétrer. Nous sommes donc responsables de nos actes, mais nous n'en sommes pas moins responsables. Prenons une image. C'est l'image d'un homme coincé dans des sables mouvants. Plus il s'agite pour s'en sortir par ses propres forces, plus il s'enfonce. Et par ses propres forces, c'est quoi? Par sa moralité, ses efforts, son idéologie, sa propre religion, son idée de la religion. Il a besoin de quoi cet homme coincé dans des sables mouvants? Il a besoin d'un sauveteur extérieur. Et ce sauveteur extérieur, l'apôtre Paul le propose. Il propose au verset 25 du chapitre 7, il dit, grâce soit rendue à Dieu, mais c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et là, il peut pousser ce cri de triomphe, Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a plus. Ainsi une rupture nette. Et ça, c'est formidable. Oui, je suis heureux de le souligner. Je suis dans une grande joie de pouvoir vous le dire. Il n'y a plus en Jésus-Christ, c'est possible une telle rupture. Ce il n'y a plus marque la fin d'une époque. C'est le passage immédiat d'un temps à un autre. Ce n'est pas un soulagement progressif, non, mes chers auditeurs, auditrices, c'est une amnistie totale, c'est une libération totale. Le mot condamnation, en grec c'est katakrima, désigne non seulement la sentence, mais aussi le fait de purger la peine. Mais Jésus, je vous le rappelle, Jésus, selon ce que soulignent les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, il nous est dit que Jésus a purgé la peine à notre place. Il est la victime propitiatoire, il est la victime de substitution, il a pris notre place. Voyez-vous, dans Matthieu chapitre 27, verset 51, il est question au moment où Jésus expire sur la croix, là, sur le mont Golgotha, au même moment, le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint va se déchirer. Et au moment donc où Jésus en effet meurt, le voile qui séparait l'homme de la présence de Dieu se déchire de haut en bas. La barrière du péché qui condamnait l'homme à rester éloigné est instantanément détruite, chers amis. Le cri finalement que pousse l'apôtre Paul au chapitre 7 de l'épître aux Romains, verset 24, dira: Misérable, malheureux que je suis. Finalement, c'est quelque chose de tellement important. Tout cela va quitter le cœur de l'apôtre Paul au moment de sa conversion, de sa repentance, d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais ça peut être vrai pour vous, quelles que soient, eh bien, les situations qui sont les vôtres. Je vous rappelle que le voile pour entrer dans la présence de Dieu a été déchiré, non pas du bas en haut, mais du haut en bas. C'est Dieu qui est intervenu dans son amour. Donc, ce n'est pas une question de bonheur ou de malheur, c'est la misère profonde de l'être humain soumis au péché, pesé et mis à l'épreuve. L'homme que nous sommes, les hommes que nous sommes ne valent pas grand-chose. Et l'apôtre Paul ressent si profondément cette faiblesse humaine intrinsèque qu'il fait entendre ce cri d'angoisse. Mais qui me délivrera du corps de cette mort? Et il va trouver cette réponse seulement en Jésus-Christ, finalement Jésus qui a tout accompli. Le tout accompli de la croix, l'apôtre Paul le sait puisqu'il l'a expérimenté. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a donc maintenant, est-il écrit, il y a une urgence du présent, c'est pas pour demain, après-demain, dans 20 ans. Non, c'est maintenant. Maintenant, c'est le présent. Voyez-vous, il faut arriver à briser la mentalité d'une certaine idéologie spirituelle qui remet toujours le salut à plus tard ou qui exige de mériter le pardon. Non, c'est une grâce. Le christianisme n'est pas une religion du peut-être qu'à la fin de ma vie, j'aurai fait assez de bien pour être sauvé. Non, 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 non. Ce n'est pas du tout là la réalité du christianisme soulignée par les Saintes Écritures. C'est la certitude immédiate. C'est le mot maintenant. Alléluia. Et vous avez un exemple biblique dans Luc chapitre 23, versets 42 et 43, où il est question d'un des brigands sur la croix. Il y en a deux, ces hommes ont raté leur vie. Ils sont condamnés par la justice humaine. Ils reconnaissent qu'il faut qu'ils payent, mais l'un d'entre eux ne veut pas aller jusque-là finalement. Mais il y en a un, oui, qui est aux côtés de Jésus. Lui, ce deuxième brigand, lui reconnaît qu'il mérite sa peine. Alors il se tourne vers Jésus et lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus ne lui dit pas, on verra après un temps de probation si tu es donc dans la bonne condition de cœur. Non, 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 il lui dit, c'est écrit, Luc 23, versets 42-43, aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. C'est le maintenant de Dieu qui s'applique au pire des pécheurs, à la seconde où il croit que Jésus est le Sauveur. Finalement, c'est une réalité de grâce. On y revient encore à ce mot formidable qu'est la grâce. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, aucune condamnation. Vous savez, dans l'évangile de Jean, il y a l'histoire, Jean chapitre 8, il y a l'histoire de la femme adultère. Il y a l'histoire de cette femme. Et je vais y revenir parce que finalement, il va y avoir une action de crise qui va désarmer les accusateurs. Comme le Seigneur veut désarmer notre propre conscience chargée. C'est tellement important de comprendre la conscience du regard des hommes. Satan, vous savez, le diable est appelé l'accusateur des frères. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Les hommes condamnent par jalousie ou légalisme. Notre conscience nous condamne parce qu'elle se souvient de nos fautes. Mais voyez-vous, l'Écriture, l'Évangile nous dit, mais la justification par la foi signifie que Dieu nous regarde à travers le vêtement de justice de Jésus. Quand Dieu vous regarde, il voit la pureté de son Fils si vous avez accepté Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Et quand je reviens à Jean chapitre 8, l'histoire de cette femme adultère, au verset 11, Jésus va lui dire, ceux qui t'ont condamné, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. Et cette femme, elle répond, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et tous ces hommes, selon la loi de Moïse, étaient prêts à la lapider. Ils avaient des pierres à la main. La loi qui condamne. Jésus, je l'ai dit tout à l'heure, n'abolit pas la loi, mais il s'interpose. Il est là pour l'accomplir de la bonne manière. Et quand ils partent, il reste cette femme, cette pécheresse, et Jésus qui est la manifestation de la grâce. Et j'insiste, Jésus lui donne d'abord son statut. Je ne te condamne pas non plus. Et ensuite, il lui donne la force pour la sainteté, la sanctification. Être agréable à Dieu, il lui dit va et ne pêche plus. Voyez-vous, l'éthique chrétienne, la morale chrétienne ne commence pas par l'effort, elle commence par l'assurance de ne pas être condamné. C'est l'apôtre Jean, dans sa première épître de Jean, dans votre Bible, au chapitre 3 et le verset 20, il est écrit justement ceci. Même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je le relis. Même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Gloire à Dieu. Voyez-vous, Dieu est plus grand que notre cœur. Et l'apôtre Jean rajoute au verset 21, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et il rajoute encore, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons, donc c'est ça le commandement de Dieu, que nous croyons, que nous ayons la foi au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Gloire à Dieu! Et celui qui garde les commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Oui, voyez-vous, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui demeurent en Christ, qui demeurent en Dieu, qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, comme le brigand sur la croix, comme cette femme qui a été, cette femme adultère, pécheresse, qui a été donc pardonnée. Amen. Il n'y a plus aucune condamnation. C'est-à-dire, vous pouvez être réellement libre. J'insiste sur ce mot, réellement libre en Jésus-Christ. Alors, vous qui nous écoutez, je termine aujourd'hui, quel est le verdict qui pèse sur votre vie? Est-ce le verdict d'un divorce, d'un échec professionnel, d'une erreur de jeunesse? Bref, la liste est longue. Jésus-Christ vous propose aujourd'hui la vie finalement sans verdict. Entrez maintenant dans cette absence de condamnation. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.
Pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé? Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché? Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour.
Oh, 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 yeah.
Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Yeah.
Yeah.